Auriol, le dernier faune et la flûte de Pan. Je fais partie d'une société d'excursionnistes suburbains, la Champêtre du 18e, laquelle est uniquement composée de gens qui se figurent que les dieux ne sont pas morts, ni les faunes, ni les satyres, ni les dryades. L'été venu, nous nous réunissons chaque dimanche dans un café du boulevard extérieur. Et comme d'autres vont herboriser, nous partons la canne au poing et les charcuteries au sautoir à la recherche des nymphes bocagères. En ma qualité de sous-secrétaire adjoint de la dite compagnie, il m'arrive parfois de devancer l'époque officielle des promenades et de faire quelques reconnaissances préliminaires dans les environs. C'est ainsi que l'autre matin, je me suis rendu à Ville-d'Avray, localité qui m'avait été signalée comme devant être le séjour des dernières nymphes du Parisis. Après avoir côtoyé le parc d'Alphonse le Maire, et saluer en passant le bon Corot, je suis allé, fumant la pipe, rôder autour d'un vieil étang peuplé de grenouilles. Ici, pensais-je, en m'embusquant derrière ce rideau de roseaux, je serais merveilleusement bien pour épier les naïades, si toutefois il leur plaît de venir folâtrer parmi les gazons neufs et les violettes nouvellement parues. Or, au moment même où je me livrais à ces réflexions, j'entendis du bruit à main gauche. Un homme, jeune encore, parut, vêtu d'un complet de drap bleu marine. Il avait aux jambes des guêtres de cuir fauve, et, chose bien faite pour me stupéfier et me réjouir, il avait en bandoulière une énorme flûte de Pan. Oui, une flûte de Pan, vous avez bien lu. Non l'un de ces jouets misérables comme on en voit chez les chevriers basques de nos trottoirs, mais un vaste instrument dont les tuyaux avaient pour le moins aussi gros que le doigt. Il n'y avait pas à tortiller. J'étais en présence d'un faune habillé en petit matelot, c'est possible, mais d'un faune néanmoins. Dès qu'il fut arrivé au bord de l'eau, le faune huma l'air avec inquiétude. Il avait un regard méfiant pour le frêle esquif amarré au tronc d'un larmoyant vieux saule. Mais comme l'esquif était sans nautonnier et qu'aucune intrusion vraiment imminente ne paraissait pouvoir se faire, il se rassura peu à peu, décrocha son instrument et se mit en devoir d'éveiller les échos d'alentour, lesquels avaient suffisamment dormi comme cela, puisque du reste, il était 11h30 du matin. Sans doute il voulait charmer quelques divinités riveraines, et cette beauté dépourvue de voile vin, j'allais moi, simple mortel de deuxième classe, l'avoir indubitablement hissir de l'eau, la chevelure ruisselante de perles. Oh, je n'allais pas m'embêter. Mais le faune s'était assis sur l'herbe. Et voici qu'à mon grand regret, et complet étonnement, il entreprit de démonter sa flûte. Un à un, il enleva les ligaments qui reliaient entre eux les roseaux, et minutieusement, il rangea les roseaux sur le gazon dans un ordre voulu. Puis, les ayant emmanchés l'un dans l'autre, il adopta, au bout de l'étrange instrument, cette perche, ainsi obtenue, un long fil. Et tranquillement, il se mit à pêcher à la ligne.